Les discussions du soir. Chaque vendredi, géopolitique, aventure, voyage, par Jean-Christophe Ruffin, écrivain académicien, médecin.
Les discussions du soir, je reçois ce soir un écrivain, biographe, qui va nous ouvrir les portes du Sud et de beaucoup d'univers, notamment d'univers féminin. Bonsoir Dominique Bonnat.
Bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Dominique Bonnat, vous êtes un peu chez vous ici, puisque vous êtes né dans la radio, mais votre père, Arthur Comte, a été président de cette maison pendant de nombreuses années. Vous avez des souvenirs dans cette maison ?
J'ai le souvenir d'un père enthousiaste qui aimait venir justement dans cette maison, qui trouvait qu'il y avait là au fond tous les arts réunis, parce qu'il y avait des comédiens, des musiciens, toutes sortes d'artistes, chacun des journalistes politiques, etc. Et il pensait que toute la vie était résumée dans cette maison.
Non, c'est pas faux. C'est pas faux, ça continue. Il a été ministre sous la 4e République, Arthur Comte. Il a été président de l'ORTF, on appelait ça comme ça à l'époque. Et puis c'était un écrivain. Mais c'était surtout, j'allais dire, d'abord, un Catalan. Et vous êtes né à Perpignan d'une double lignée catalane. Ça vous a beaucoup marqué, je crois.
Oui, mes racines catalanes comptent beaucoup aujourd'hui même. Je ne vais plus très souvent à Perpignan, mais il me semble que ma ville, ma région sont restées inscrites dans mon cœur.
Le centre du monde, comme
vous dites. Et les racines sont bien là. Oui, ouais. Pour Dalí, Perpignan, la gare de Perpignan, c'était le centre du monde. Mais au fond, c'est vrai que c'est cet enracinement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des racines. Et je crois que c'est un premier cadeau de la vie, en fait. Pouvoir s'enraciner quelque part, avoir des repères, avoir un paysage qu'on transporte un peu partout. Et finalement, ce paysage, je crois que je l'ai gardé dans mes livres. Ce paysage méditerranéen, ce paysage avec les oliviers, la mer Méditerranée, c'est très important pour moi.
En même temps, la Catalogne, c'est aussi une langue. C'est aussi un accent. Quand vous étiez enfant, pareil, jusqu'à l'âge de 10 ans, vous parliez avec l'accent catalan.
Oui, toute ma famille a forcément l'accent catalan, l'accent du Sud. Les gens qui fréquentent le Sud ou les Suds savent qu'il y a toutes sortes d'accents. L'accent catalan n'est pas exactement le même qu'à Marseille ou qu'en Avignon, mais c'est un accent rauque, rude.
Qu'avait votre père très fort.
Ah oui, hein. Oui, il avait un accent très fort. Seulement, il était député des Pyrénées-Orientales. Moi, j'ai été élevée à Paris. Et quand je suis arrivée à l'école à Paris, bien c'est très rapide, les petites filles se sont moquées de moi à ma première lecture et j'ai ravalé mon accent. Il n'est jamais revenu. Je le regrette beaucoup parce que mon père disait l'accent c'est la fidélité et c'est vrai. Mais enfin, j'ai une autre façon d'être fidèle au catalan.
Et vous, Dominique Bonnat, vous dites, à cause de ça peut-être, j'ai grandi dans l'exil.
Oui, avec ce sentiment qu'au fond, Paris, avec tous ses charmes, avec toute son excitation, Paris ne peut pas remplacer le royaume de l'enfance. Je crois qu'au fond, c'est ça aussi, l'attachement. Les gens sont plus ou moins attachés à leur enfance. C'est vrai que j'ai eu cette chance magnifique d'avoir une enfance heureuse, au fond, avec beaucoup d'amour. Et cette enfance, oui, je m'y rattache encore aujourd'hui, sans vraiment de nostalgie, sans aucune mélancolie. Mais c'est parfaitement naturel. Enfin, l'enfance fait partie de mon histoire.
Mais la Catalogne, pour vous, c'était Perpignan, c'était la ville. Mais c'était aussi, et par votre père notamment, la campagne. Et une campagne qui peut-être aujourd'hui a disparu. D'ailleurs, vous avez connu vraiment cette Catalogne profonde, cette Catalogne des racines, ce qu'il appelait les paysans de la vigne, ce qu'on appelait à l'époque les paysans de la vigne du côté de votre père. C'était ça ? C'était une famille
de
petits vignerons ?
Si je commence à raconter ce que j'ai connu dans le village de mon père, les auditeurs vont penser que j'ai 105 ans, ou peut-être davantage. En tout cas, c'est vrai que j'ai connu une maison de village où il n'y avait pas l'eau courante au robinet, où il n'y avait pas de chauffage. La grand-mère mettait des seaux de braise sous la table pour chauffer les repas du dimanche. C'est comme ça qu'avait été élevé mon père et c'est ce que j'ai connu, enfin petite fille. Mais ce qui est surtout resté, je crois que ce sont les parfums. Les parfums de... alors je sais bien que les bourguignons doivent avoir le parfum de leur région aussi, comme ça, dans le nez et dans le cœur. Mais moi je garde ce parfum de tramontane. La tramontane, c'est un vent très puissant qui vient de la mer, qui balaie complètement le département. Et il y a une sorte de pureté là-bas exceptionnelle.
Alors vous qui faites partie des défenseurs de la langue française, vous êtes membre de l'Académie française depuis 2013. J'ai eu le privilège de vous y recevoir d'ailleurs et vous avez dit et redit bien souvent votre amour de cette langue. En même temps, vous êtes issu d'une autre langue, c'est-à-dire que votre père a appris le français à l'âge de 5 ans.
Oui, il a appris le français en allant à l'école en fait. Comme toute sa génération dans ce département. Il n'est pas espagnol, mon père, il est bien français, mais il est né dans ce département des Pyrénées-Orientales qui parlait autrefois le catalan et qui le parle toujours aujourd'hui dans une partie de la population.
Alors finalement, le Sud, c'est la Catalogne, bien sûr, pour vous, par votre famille, mais finalement, vous avez élargi le Sud. Vous avez élargi d'abord par votre mariage, Dominique Bonnat. Vous avez épousé un autre homme du Sud, qui est lui d'origine corse, oui. Et qui vous a ouvert à une famille qui a une histoire assez singulière, en fait, qui ouvre sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Atlantique, enfin... mais c'est toujours le Sud.
C'est toujours le Sud, oui. Pour moi, le Sud, c'est une forme d'identité, finalement, mais un Sud large, un Sud ouvert, un Sud hospitalier en même temps, qui se promène, en effet, du côté de l'Amérique latine, qui vagabonde vers l'Afrique du Nord, vers le Maroc, que je connais aussi assez bien. Et donc, tous ces Suds se rejoignent et forment ce paysage, au fond, qui est une toile de fond d'un individu, sans doute.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de votre belle famille, de la famille de votre mari, est une histoire quand même tout à fait singulière et qui finalement va vous faire entrer vous-même dans le monde romanesque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un instant cette histoire?
Oui, alors d'ailleurs le nom que je porte, Bonnat, c'est le nom de mon mari, c'est un nom corse, c'est de Venaco. Venaco, c'est un village qui est vraiment dans le cœur de la Corse. De Venaco, on ne voit pas la mer, c'est tout dire. Et là, évidemment, les gens étaient assez pauvres, vivaient de la terre, et donc s'exilaient. Un seul enfant reprenait le bout de terrain familial et puis les autres s'en allaient. Et un arrière-grand-père de mon mari est parti sur une publicité qui était faite par un gouvernement de Santo Domingo, c'est-à-dire de l'île de Saint-Domingue, dans les Caraïbes. Et il est parti là-bas chercher l'aventure et faire fortune. En fait, il n'a pas vraiment fait fortune, mais c'est quand même établi. Évidemment. Oui, c'est établi. Il a créé un hôtel français, enfin, donc... Toute cette famille corse a pris racine en Amérique latine. Alors c'est comme ça ensuite que je suis allée beaucoup évidemment là-bas et puis... pas tout de suite, mais assez vite quand même, et j'ai voyagé dans toute l'Amérique latine.
Oui, mais alors ce qui est assez intéressant, parce que finalement, bon, vous faites des études de lettres modernes, vous avez cette formation, cette culture qui vous dispose, qui vous porte à la littérature, mais finalement jusqu'à 30 ans, vous n'écrivez pas. Et il y a une sorte, en tout cas, vous ne publiez pas. Et puis, au fond, vous passez à la littérature par une sorte de frustration. Ça, je trouve ça toujours fascinant comment, parce que les parcours des femmes, des hommes, ça sont souvent très différents. Vous commencez par fantasmer, par rêver les endroits où va votre mari et où vous ne pouvez pas l'accompagner.
Oui, en fait, j'ai un grand défaut dans la vie, c'est que je n'ai jamais fait de psychanalyse. Donc je me suis jamais vraiment étudiée à fond. Alors j'ai un peu de mal au fond à théoriser mon histoire, mon parcours. Je crois tout s'est fait assez spontanément, sans vraiment de projet. Ce qui était sûr, c'est qu'au départ, j'aimais les livres, j'aimais lire. Enfant, je préférais lire plutôt que faire du sport ou aller me promener, je ne sais où. Donc pour moi, la solitude avec un livre, le rêve, voilà, ça c'est vraiment important. Oui, je l'ai tout de suite compris. Et donc je me suis dit, j'ai au fond aiguillé ma vie, je dirais même pas orienté, mais aiguillé ma vie pour que elle aille dans ce sens finalement du rêve, de la lecture, et puis l'écriture est venue spontanément après. Mais c'est vrai que le fait j'allais appeler ça une déchirure, c'est peut-être un peu fort, mais entre l'enfance et puis la vie à Paris, et puis le fait que j'avais un mari voyageur qui parcourait justement une partie du monde qui était l'Amérique latine, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert des horizons sans doute, mais aussi ça a développé chez moi une sorte de crainte des grands espaces, et ça a renforcé ma volonté de vivre dans les livres. Au fond, j'entendais la définition de votre émission. J'aime beaucoup cette définition, Jean-Christophe Ruffin, parce que c'est aventure, voyage. Il y a un troisième terme, aventure, voyage. Et moi, je me dis, au fond, aventure, voyage. C'est vrai, j'ai voyagé, bon, comme tout le monde dans la vie, mais surtout dans les livres, en fait.
Il n'empêche que votre premier roman, j'y reviens parce que je trouve ça assez fascinant, porte sur l'Argentine, et à l'époque, votre mari voyage souvent en Argentine, vous ne l'accompagnez pas, et d'une certaine manière, vous imaginez, à travers un autre personnage, qui est ce personnage de ce Français, Jean Flamand, qui a fait fortune en Argentine, vous imaginez d'une certaine façon le voyage que vous ne faites pas en réalité.
Oui.
C'est-à-dire, vous restez à Paris, vous élevez vos enfants.
Oui. Et en même temps, schéma classique. Mais en vérité, je voyage, oui, je voyage très très bien. Je pense qu'on peut vraiment. Je crois que Jules Verne a très peu voyagé d'ailleurs. Je ne veux pas me comparer évidemment à Jules Verne, mais non, il me semble qu'on peut, avec des fantasmes, des rêves, faire des choses extraordinaires. Ça, c'est certain.
Et Argentina, votre premier.
Et Argentina, mais c'est parce que justement, on me promettait toujours, je t'emmènerai en terre de feu, je t'emmènerai au Ushuaïa. Et puis finalement, c'était difficile, c'était compliqué. Il y avait les enfants petits, il fallait rester là. Et je n'y étais jamais allée. Je suis allée plus tard, bien après avoir écrit ce roman, que j'ai écrit entièrement à Paris, en hiver en plus. J'ai souvent écrit pendant l'hiver à Paris en imaginant ou la terre de feu en Argentine, ou le Maroc, ou le sud de la France. C'est très agréable parce que l'illusion est totale. On a vraiment l'impression de changer de climat, de météorologie.
Avis aux maris qui voyagent beaucoup, ça donne des idées à leurs femmes et ça peut faire d'elles des écrivains.
Mais en même temps, parce que c'est vrai que vous me définissez par rapport à cette vie conjugale, finalement, cette relation avec Philippe Bonin, avec mon mari. Et c'est important, mais c'est vrai qu'aussi la littérature, c'est le jardin secret. C'est ce qui appartient à soi, c'est ce qui est en dehors, au fond, de cette vie familiale, conjugale, etc. Et c'est un domaine, vraiment. Je ne dirais pas un domaine protégé, mais d'une certaine façon, oui, c'est quand même un domaine entouré un peu de murs où on peut être à son tour soi-même,
en même temps,
détaché du couple, par exemple, détaché des devoirs maternels aussi. La maternité, c'est magnifique, mais en même temps, les femmes savent ça très bien, c'est aussi une chaîne. Donc finalement, écrire des livres, c'est laisser tout cela, un peu larguer les amarres, et puis cultiver sa propre route.
Mais en même temps, vous avez une manière bien à vous, qu'on sent d'ailleurs dans vos propos, de faire les choses avec fermeté, avec des décisions, mais de façon discrète, harmonieuse. Et au début, vous commencez à écrire sur la table de la salle
oui,
à manger.
Oui, oui, bon. Oui, bien sûr.
Et
oui.
Comme Berthe Morisot peindra en enfermant par la suite ses pinceaux et ses tubes de peinture dans l'armoire du salon. En tout cas, c'est ce que vous raconterez quand vous parlerez d'elle dans sa vie. C'est féminin, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une question de génération?
Non, pas toutes les femmes. Non, pas toutes les femmes. C'est un choix, c'est-à-dire essayer de trouver une harmonie, justement, entre ce qu'on peut appeler la vie professionnelle, ou moi, je préfère l'appeler la vie artistique, et puis la vie privée, la vie amoureuse ou conjugale, maternelle. Donc, essayer de trouver une harmonie, c'est pas si facile. Ça a été difficile à toutes les générations, ça l'est toujours, je pense, même chez les jeunes femmes aujourd'hui, elles ont toujours beaucoup de mal à organiser. Alors, il y a beaucoup d'artistes, alors j'ai écrit une biographie de Berthe Morisot, mais j'ai écrit aussi sur Camille Claudel, et autant Berthe Morisot, et c'est pourquoi je l'aime sans doute, c'est vrai, elle est en recherche d'harmonie pour au fond rassembler les parties syncopées de sa vie, autant Camille est dans la rupture. Elle est dans la rupture et je l'aime aussi énormément, mais elle vit tout dans la tragédie, dans le drame. Pour elle, vraiment, la sculpture, la création ne peuvent pas être associées à quoi que ce soit d'autre, ni même avec l'amour d'un homme.
C'est en ça que vous êtes plutôt du côté de Berthe Morisot dans votre vie.
Oui, je ressemble davantage, peut-être comme femme, comme artiste c'est autre chose, mais comme femme, oui, j'ai plus de liens avec Berthe Morisot, mais évidemment j'admire Camille Claudel qui est entièrement dans la passion, possédée par son art, qui n'aime pas les compromis dans la vie. Pas de compromis, c'est tout ou rien, c'est noir ou blanc. Voilà.
En fait, l'un n'est pas forcément plus efficace que l'autre, puisqu'avec cette méthode douce, vous parvenez quand même à occuper très très vite une place éminente dans la littérature, et vous recevez le prix Renaudot, qui est un des, évidemment, prestigieux. Donc, j'énumère pas tous vos romans, mais enfin, en tout cas, vous en faites plusieurs. Vous êtes couronné, vous êtes reconnu. Et puis alors, progressivement, vous allez faire émerger une autre forme, Dominique Bonnin, une autre forme de création qui est plus directement liée à des personnages existants, et avec une première biographie qui est celle de Romain Gary. Et au fond, là, vous entrez dans une autre forme d'art qui est la biographie, parce que c'est un art d'une certaine manière, certainement même, vous allez nous le dire. Il y a une rupture, là? C'est un choix que vous avez fait?
D'une certaine façon. Peut-être pas une rupture, mais c'est vrai que, au départ, j'ai écrit des romans. J'ai aimé écrire des romans. Et puis, lorsque j'ai eu envie d'écrire sur Romain Gary, tout simplement parce que j'avais lu Les Racines du Ciel, que ce livre vraiment m'avait paru magnifique, considérable, et que j'y avais trouvé toutes sortes de réponses à des questions que je me posais sur les choses les plus simples, comme l'amour, par exemple. Et j'ai eu envie de savoir qui était Romain Gary. Et j'ai donc écrit ce livre, qui est ma première biographie. Et là, j'ai découvert une forme de récit auquel je me suis attachée. Finalement, la biographie et le roman, ce n'est pas si différent. C'est la même chose. Les deux racontent un destin. Le destin d'un homme, le destin d'une femme, souvent de la naissance à la mort. Enfin, ça dépend des livres. Mais la seule différence qu'il y a, finalement, c'est fiction-vérité. Et je me suis rendu compte, en écrivant sur Berthe Morisot et sur beaucoup d'autres personnages, que souvent, eh bien, la vérité dépasse la fiction en romanesque. Beaucoup de vies vraies, de vies authentiques, sont infiniment romanesques. Celle de Romain Gary, d'ailleurs il s'appelle Romain Gary, de son premier nom, c'est tout un roman. Mais aussi, j'ai retrouvé ce caractère romanesque dans les autres personnages de mes biographies.
Ça, c'est parce que vous êtes un biographe ou une biographe romancière, parce qu'il y a des biographes beaucoup plus historiens ou techniciens. Vous avez fait un choix qui est d'éclairer la biographie à travers la sensibilité romanesque, comme le faisait Stefan Zweig d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a un courant très particulier quand même. Et ils sont rares, je trouve, les biographes qui sont capables vraiment de faire vivre leur personnage au-delà de la simple description des détails de leur vie, mais simplement... Vous avez trouvé des méthodes souvent pour parler de certains personnages. Je pense à André Mauroy, par exemple, ou à Paul Valéry, quand vous avez parlé de leurs amours, quand vous avez parlé de leur... vous avez écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a qu'un amour », qui est d'ailleurs une antiphrase, parce que, en l'occurrence, c'est pas tout à fait le contraire.
Oui, ils sont trois.
Ils sont trois, et qui décrit la vie d'André Mauroy, finalement, par le cœur, par les sentiments, comme une romancière que vous êtes.
Oui, alors, je n'aborde pas la biographie en universitaire, c'est-à-dire que je privilégie le récit, le portrait, plus que la documentation. Mais je me documente quand même beaucoup.
Bien
la
sûr.
Part de recherche est très importante et je n'introduis pas la fiction, comme c'est assez à la mode aujourd'hui, d'écrire des romans biographiques ou des biographies romancées. Vraiment, je m'attache à écrire des biographies entièrement, vérifiables ou fiables sur le plan historique. Et c'est vrai, Jean-Christophe Ruffin, vous avez cité Stéphane Zweig. Eh bien, Stéphane Zweig, pour moi, c'est un maître de la biographie. Parce qu'au fond, il peut raconter les histoires les plus secrètes, parce qu'il a écrit, par exemple, sur Marie-Antoinette, mais il a écrit aussi sur Marie Stuart, il a écrit sur Magellan, il a écrit des livres vraiment très beaux. Et à chaque fois, c'est très facile à lire. Il y a derrière cette facilité d'écriture tout un travail de recherche, presque d'érudition, mais ce qui domine, c'est le plaisir de la lecture. Et pour moi, eh bien, je m'essaie à ce grand art de la biographie en espérant apporter le bonheur, finalement, de la comparaison avec un grand personnage de la littérature, de la peinture ou de l'histoire.
Les discussions du soir avec ce soir Dominique Bonnat. Nous parlions des biographies. Il y a quand même une particularité dans les vôtres, c'est la présence, maintenant presque, j'allais dire, exclusive, en tout cas très 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 proéminente, des femmes que vous avez soit prises comme sujet individuellement, comme Clara Malraux par exemple, soit des femmes que vous avez observer en groupe, je puis dire, les sœurs Heredia, par exemple, les sœurs Roar, ces mondes de femmes, c'est presque devenu votre thème central.
Oui, alors d'une part, parce que j'aime bien les biographies non conventionnelles, c'est-à-dire au lieu de prendre un personnage unique, le saisir dans un groupe. Par exemple, en effet, un tableau de Renoir représentant deux sœurs assises au piano, eh bien, je raconte l'histoire de ces deux sœurs et en même temps, ça me permet de tracer un tableau de l'époque, de raconter les liens avec les musiciens, avec les écrivains qui étaient leurs amis, qui passaient des vacances avec elles. Ou... Voilà. Donc, toujours le côté aussi... aborder un personnage célèbre par la vie intime. C'est pas du tout par goût du scandale ou parce que j'aime bien les secrets d'alcôve. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'en fait...
Enfin, Valérie, il en prend pour son grade quand même.
Alors, je sais pas s'il en prend pour son grade. Moi, je crois qu'il redevient extraordinairement humain.
Oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, souvent, les gens célèbres, on se dit, bon, ils ont toujours été géniaux. Ils ont été géniaux à la naissance et puis toute leur vie. Et puis, ils sont sur un piédestal. Ce sont des statues de bronze lointains. On ne les approche pas, on ne les comprend pas. Donc, la meilleure manière de les approcher, de cheminer avec eux sur cette longue route qu'est la vie, c'est... d'ouvrir les portes de la vie privée.
Il est vrai que quand vous regardez Dominique Bonnat, les hommes à travers les femmes, ça donne des choses surprenantes. Et par exemple, Manet tombe un peu de son piédestal quand il explique que Berthe Morisot a beaucoup de talent, qu'il y a une chose qui est dommage, c'est que c'est une femme, par exemple.
Mais oui, mais il est évidemment un peintre de sa génération. Mais en même temps, il adore Berthe Morisot.
Oui. Bon, enfin, on ne peut pas le décrire comme un...
Non, il n'est pas vraiment... Il adore Berthe Morisot comme femme. Il aime la peindre. D'ailleurs, il l'a peinte 11 fois, Berthe Morisot. C'est incroyable. Elle a été son modèle, elle qui ne posait jamais, ou presque. Donc, elle l'a fascinée. C'est une femme très ténébreuse, avec un regard mystérieux. Donc, tout cela, on le retrouve sur les peintures de Manet. Il a été fasciné par Berthe. En revanche... pour peindre, il était quand même persuadé que les femmes étaient au second plan. Voilà, ça, c'est sûr. Ça, c'est toute son époque. Il est vrai qu'elle a quand même opté pour ce combat de l'impressionnisme où elle a été vraiment la seule femme. Ensuite, Marie Cassatt a rejoint le groupe, mais au départ, Berthe Morisot est vraiment la seule femme de l'impressionnisme. Et elle a, finalement, elle qui était une bourgeoise, fille de préfet, elle a opté pour l'avant-garde.
Oui, alors c'est souvent des personnages qui ont l'air comme ça très très propres, très bien élevés, etc. Et puis qui effectivement font des parcours plus ou moins bruyants, mais de rupture quand même, parce que bien sûr il y a Camille Claudel, le personnage de la rupture par excellence, mais même les autres. Et alors.
Jean-Christophe Ruffin, il faut quand même se méfier des femmes très douces.
Oui, mais
parce que
ça,
les femmes très douces, elles peuvent avoir une violence secrète, une violence intérieure, parfois toutes sortes de frustrations. Elles ont des élans, elles ont des passions. Et comment les exprimer? Souvent, à force d'avoir cherché à les éteindre, un jour, ces passions reviennent. Et voilà. Les femmes
thème.
Que je choisis, en fait... Ce sont des passionnés. Ce sont toutes des femmes qui ont choisi l'art. Donc Berthe Morisot, la peinture. D'autres ont choisi la littérature. Clara Malraux, dont j'ai aussi écrit la biographie, a essayé d'exister à côté de son génie de mari. Tout ça, vraiment, m'intéresse énormément. C'est-à-dire, comment la femme parvient-elle à signer sa vie, alors que souvent, elle est sous domination... soit de son père, soit d'un mari, soit d'une influence de la société.
Alors,
donc,
pour parvenir,
exister.
Pour parvenir à exister, il y a deux méthodes. Quand on vous lit, il y a la méthode, effectivement, du combat en temps normal. Et puis, il y a parfois les circonstances historiques qui peuvent offrir une sorte d'embellie, comme ça, de désert. Et c'est ce qui se passe dans votre dernier livre, qui est consacré à Colette, qui s'appelle « Colette et les siennes ». Et qui commence par un moment tout à fait singulier. Vous allez nous lire un passage, si vous voulez bien. Paris vidé de ses hommes.
Oui, c'est la première phrase d'ailleurs de mon livre. L'été 1914, il n'y a plus d'hommes à Paris.
Voilà. Et là, les femmes, tout à coup, connaissent une sorte de vertige qui est celui de la liberté. Vous pouvez nous lire quelques phrases ?
Alors, je lis ce passage. Été moite et poisseux de 1914. Des nuages bas, couleur de plomb, ferment l'horizon. Le ciel lui-même s'est mis de la partie pour rendre la respiration oppressante. Il y a pourtant dans l'air autre chose que l'orage et la peur. Un sentiment inconnu et troublant. Les femmes peinent à le définir. Toutes le ressentent, toutes s'en étonnent. Il tient au départ massif des hommes. L'expérience, totalement inédite, n'a eu aucun précédent dans l'histoire. Sans mari, sans compagnon, sans frère ni fils en âge d'homme, Paris, livré aux femmes, ressemble à un gynécée. Le maître en est absent, les gardiens ont laissé la clé sur la porte. Aussi y a-t-il dans l'atmosphère si lourde de cet été-là, été de tous les dangers, été maudit, un parfum qu'elle n'attendait pas. Elle le respire pour la première fois, confuse et même un peu honteuse d'en éprouver du plaisir. Vif, léger, comme descendu des montagnes ou venu de la mer, pour revigorer Paris désert, Paris menacé, Paris sans homme, c'est une note incongrue dans le paysage qu'elle finisse par identifier, le parfum tout neuf de leur liberté.
Merci Dominique Bonham. Alors c'est vraiment, je trouve ce passage extrêmement fort, parce que d'abord il va définir tout ce livre, et puis effectivement il met l'accent sur un moment très singulier de l'histoire. On décrit toujours l'été 14 comme l'été du drame, l'été du combat, l'été de la... Mais ça c'est vu des hommes. Puis il y a ce désert dans lequel les femmes vont s'épanouir, et en particulier Colette qui n'est pas là à ce moment-là d'ailleurs, qui va rentrer à Paris très vite, et qui va avec trois amis construire une sorte de petits mondes de liberté de femmes.
Oui, j'ai choisi cet épisode de la vie de Colette justement parce qu'il m'a semblé complètement original, presque incongru dans ce paysage de la guerre de 14, associé évidemment à une tragédie. Je l'ai choisi parce que Colette, qui a déjà 40 ans, qui vient de se marier pour la deuxième fois, qui vit avec Henri de Jouvenel, et qui vient d'avoir d'ailleurs son premier enfant et son unique enfant.
Belgazou.
Donc qui est mère pour la première fois, Belgazou. Colette se retrouvant seule, se dit ce n'est pas possible, et appelle ses trois meilleurs amis à vivre avec elle les premiers mois de la guerre dans cette petite maison qui est celle d'Henri de Jouvenel, au bord du bois de Boulogne. Mmh. C'est un vieux chalet en bois. Qui d'ailleurs s'écroulera sous l'orage en 1916. Mais ces quatre femmes, qui ont toutes des personnalités formidables, parce qu'avec Colette,
alors,
il y a aussi...
Alors, il y a Anne, Marguerite,
Anne, Marguerite et Musidora. Mmh. Alors, Anne,
qui n'est pas son nom, d'ailleurs, Musidora, elle s'appelle Jeanne, en fait.
Mais... Oui, c'est un pseudonyme. Ouais. Mais tout le monde l'appelle Musidora ou Musi, plus simplement.
Ouais. Alors, Colette la trouve un peu bête, d'ailleurs.
Oui, mais ce sont des femmes très... Elles s'entendent merveilleusement bien. D'abord, elles sont de la même génération.
Sauf Musidora, qui est plus jeune.
Sauf Musidora, qui a l'âge d'être leur fille, en fait. Sauf elle. Mais les autres sont de la même génération. Elles appartiennent au même milieu du théâtre, de la littérature, du journalisme. Oui. Sont des créatrices. Ce sont des femmes divorcées, remariées, redivorcées, re-remariées, vivant en famille recomposée. Des femmes qui gagnent leur vie, ce qui est assez original pour cette époque-là, qui s'assument entièrement. Deux d'entre elles sont journalistes, Colette et Annie. Annie de Peine, une femme qui a tout à fait disparu de notre mémoire, mais qui a marqué son époque comme une première femme reporter de guerre. Elle va descendre dans les tranchées, etc. Donc ce sont quatre femmes étonnantes qui s'entendent à merveille et qui surtout s'entraident, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'inquiétudes en 1914, elles ne savent pas comment organiser leur vie, et ensemble elles sont plus fortes. Alors c'est de ce point de départ que j'ai voulu démarrer le livre et me concentrer sur cette lumière de Colette qui va éclairer les destins des quatre.
Voilà, et alors elles ont des destins très riches, parce qu'elles ne se contentent pas de survivre ou de résister à la guerre, mais la liberté dont elles jouissent finalement, avec cette absence d'hommes autour d'elles, c'est une privation d'une certaine façon, mais c'est aussi une chance, parce que c'est ce qui va leur permettre de, chacune dans son domaine, de s'épanouir d'une certaine façon et de créer.
Oui, il y a une sorte d'air de vacances dans le petit chalet en bois, en pleine guerre. Mais enfin, les hommes sont quand même très présents, ne serait-ce que par le manque qu'ils laissent. Et donc Colette va même réussir à rejoindre Henri de Jouvenel à Verdun, Reims, qui est un autre chapitre du livre, parce que elle le retrouve, et très très bizarrement, alors que commence la grande bataille de Verdun, les tranchées sont déjà creusées, les hommes s'entretuent, Colette est chez des Verdunois qui l'ont hébergée, et Henri de Jouvenel la rejoint certains soirs de permission, et pour Colette, c'est... épisodes resteront certainement les plus érotiques de sa vie. Oui. Donc en pleine guerre mondiale, il y a cet épisode-là de la vie de Colette qui peut être surprenant, mais en même temps qui montre bien le tempérament de Colette.
Et tout le livre est fait comme ça, donc Dominique Bonnat, Colette et les siennes, c'est-à-dire c'est une sorte de livre des creux, comme ça, des marges dans l'histoire, dans cette grande histoire que tout le monde connaît ou pense connaître. Il y a des mailles dans le filet avec des espaces de liberté, et bon, comme ce chalet, comme cette escapade de Colette, comme les spectacles qu'elle donne entre elles, comme voilà, qui va être leur destin, en fond, leur destin de femmes entre elles, quand même.
Oui, il n'y a pas de discours théorique avec Colette. Il n'y a pas de discours théorique sur la paix, sur la guerre. Il y a seulement la vie. En fait, ces femmes-là, elles veulent vivre, elles veulent survivre dans une période épouvantable. Et finalement, c'est bon de vivre avec elles. Je dois dire que pendant 2 ans, en faisant toutes ces recherches, en les regardant vivre à mon tour, elles m'ont communiqué une espèce d'esprit positif, c'est-à-dire faire de chaque instant de la vie un petit moment de bonheur. Le bonheur absolu, elles le savent, n'existe pas. Il y a des phrases de Colette là-dessus. Colette a été souvent malheureuse dans sa vie. Elle a connu les épreuves de chacun et de chacune. Mais il y a toujours chez elle une espèce d'énergie vitale, une joie. Rien ne vient à bout de cette joie de Colette. Et finalement, c'est très contagieux, cette joie de vivre. Et j'en suis reconnaissante à Colette.
Et au fond, l'histoire se termine, enfin, si on peut dire qu'elle se termine, mais vous la prolongez bien au-delà de la guerre de 14. C'est-à-dire qu'au fond, le destin de ces 4 femmes va se prolonger, vous le prolongez jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que leurs liens vont perdurer, ces liens qui se sont créés pendant la guerre.
Alors ce sont des femmes qui resteront amies, en effet, jusqu'à la mort. Seule la mort va les séparer. L'une d'entre elles meurt malheureusement tôt, en 1918, emportée par la grippe espagnole qui, savez, a fait autant de morts que la guerre elle-même. Mais les autres vont poursuivre leur destinée, en effet. Elles ont un trait aussi qui les rassemble, c'est qu'elles aiment tellement la vie qu'elle boude les enterrements. Même quand l'une d'entre elles meurt, les autres ne vont pas à l'enterrement, celles qui restent en tout cas, parce que ça les rend tristes. Il n'est pas question de s'habiller en noir. Le deuil est gommé de leur vie. Et Colette a cette phrase que je trouve extraordinaire. Elle dit à plusieurs reprises « La mort ne m'intéresse pas et surtout pas la mienne ».
Mais justement, Dominique Bonnat, dans ce livre, vous faites comprendre une chose, c'est que tout le monde sait que la guerre de 14 a été un moment où les femmes ont vu leur rôle social changer considérablement, puisqu'elles ont dû remplir les fonctions que les hommes avaient laissées vacantes en partant au front, etc. Ce qu'on voit toujours ça, c'est comme une charge, comme une entrée dans la vie professionnelle, chose de très sérieux. Mais c'est aussi un moment où les femmes, probablement, ont acquis une liberté créatrice et une liberté sociale, et une liberté tout court, enfin, entre elles, même dans les rapports entre elles, qu'on sent dans tout ce livre et qui fait la joie de vivre de ce livre et de ce groupe.
Bien sûr, Jean-Christophe Ruffin, c'est vrai, la Première Guerre mondiale a été une étape importante dans l'histoire de la liberté de la femme. Parce que justement, c'est à ce moment-là qu'elles ont eu à prendre des responsabilités que probablement les hommes auraient gardées en d'autres temps. Colette en particulier, et Annie de Peine aussi, développent leur carrière journalistique à ce moment-là. Ce sont de véritables journalistes qui prennent le relais des hommes qui sont absents.
L'une au matin, donc Colette au matin.
Oui, et l'autre à l'œuvre, mais aussi au matin. Elles changent souvent de journaux. Elles ont écrit dans de nombreux organes de presse. Et l'œuvre journalistique de Colette est considérable d'ailleurs. Donc elle s'affirme, mais chez Colette et ses trois amis, il est vrai que ces libertés les avaient prises bien avant la guerre. C'était des pionnières de la liberté. Elles avaient notamment coupé leurs cheveux au début du siècle, ce qui était extrêmement rare. Les femmes ne couperont leurs cheveux pour la plupart qu'après justement cette première guerre. Le modèle de la garçonne qui sera celui de Victor Marguerite, le roman écrit en 1922, eh bien, il est déjà écrit par Colette et par ses trois amis.
C'est ça, ce qui se crée à ce moment-là, dans cette période de la guerre, vraiment pas de l'après-guerre, mais vraiment de la guerre, c'est déjà les semences de tout ce qui va pousser dans cet entre-deux-guerres qui ensuite verra éclore donc ces femmes libres. Alors ça, vous le décrivez très bien, mais vous décrivez aussi... Il y a évidemment ce personnage qui domine tous les autres, qui est celui de Colette, parce que... Bon, là, vous les avez mises un peu sur le même plan, mais en réalité, elles ne le sont pas. Il y en a une qui est plus égale que les autres, quand
c'est
même.
C'est parce que Colette possède une lumière très particulière, qui en effet domine. Même si Marguerite Moreno finit sa vie en monstre sacré du théâtre, lorsqu'elle va jouer dans La Folle de Chaillot, même si Musidora est un personnage extraordinaire, qui est la première vampe du cinéma muet, le mot a même été créé pour elle, quand elle a joué dans Les Vampires de Louis Feuillade, les gens disaient « Ah, la vampire », et puis c'est devenu la vampe. Et c'est comme ça que le mot a été créé. Et Annie Depen elle-même, une grande journaliste. Mais Colette a quelque chose de plus. Elle a effectivement cette plume qui est la sienne, cette écriture qui... On a dit souvent de Colette, et c'est très juste, qu'elle avait fait entrer la chair dans la prose française. Je crois qu'il faut saluer Colette comme en effet un grand écrivain français. Elle a une manière d'écrire qui est tout à fait nouvelle. Elle écrit au féminin, elle écrit avec les parfums, avec les odeurs, avec les sensations, et elle donne très souvent la parole aux femmes dans ses livres, aux femmes comme aux animaux, qui sont ses interlocuteurs préférés.
C'est pour ça que ce livre, Dominique Bonnat, donc Colette et les siennes, est aussi peut-être d'abord une biographie de Colette, d'une certaine façon.
Enfin, c'est une biographie de Colette, oui, une biographie de Colette, mais je dirais une biographie, enfin je l'espère en tout cas, peut-être peu conventionnelle, parce que pour une femme qui était anticonformiste à ce point, une femme qui est allée à l'encontre des codes, même des tabous de son époque, c'est une femme qui a affiché sa liberté, sont d'ailleurs la revendiquer de manière tout à fait naturelle. Elle n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, de programme politique, mais elle est la liberté incarnée.
C'est une réhabilitation aussi de Colette, parce que malheureusement, je crains qu'elle n'ait subi et n'ait connu un purgatoire assez long. Hier, avant de vous rencontrer, j'ai posé la question à une de mes filles que j'avais sous la main. Je lui ai dit « Est-ce que tu as lu Colette ?» Et elle ne connaissait pas Colette, à ma grande honte d'ailleurs. Pourtant, c'est une fille cultivée, mais on ne lit plus Colette, on lit moins Colette aujourd'hui.
Oui, peut-être est-ce dû au fait qu'on assimile beaucoup Colette aux Claudine, les romans de ses débuts, qu'elle a d'ailleurs écrit avec Willy. Et ces romans-là parlent d'une époque vraiment lointaine, révolue. C'est peu après les Claudine, moi je trouve, que Colette a pris son envol, que Colette est devenue Colette. Donc peut-être, Jean-Christophe Ruffin, vous devriez proposer à votre fille Les Vrilles de la Vigne, La Naissance du Jour, Le Fanal Bleu, tous les livres qu'elle a écrits justement dans les années 20, sans parler du Blé en herbe, par exemple, ou de Chéri, mais peut-être plus le Blé en herbe. Et là, je suis persuadée qu'elle va trouver l'enchantement de Colette, cette espèce de plume à la fois savoureuse et chaleureuse qui raconte les histoires les plus simples de la vie.
Mais écoutez, je vais suivre votre conseil. En tout cas, Colette... ne s'intéressait pas à sa mort, mais sa mort était un événement national. Elle a eu des obsèques nationales.
C'est très rare chez les écrivains.
Les écrivains, et encore plus pour des femmes. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples de femmes qui ont eu des obsèques nationales. Et finalement, ces obsèques sont des enterrements doubles, souvent. C'est-à-dire qu'on conduit le corps en terre, mais on enterre aussi sa mémoire. Et grâce à vous, grâce à ce livre, Dominique Bonnat, Colette et les siennes, on retrouve non pas Colette le jour de son enterrement, mais Colette dans sa vie, dans sa création. Et je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant. Ça fait un bien fou de vous lire, comme de lire d'ailleurs toutes vos autres biographies et vos autres romans. Merci Dominique Bonnat.
Merci Jean-Christophe Ruffin.
Les discussions du soir, avec ce soir Dominique Bonnat, Laurence Genepin, Pierre Monteil, Anne-Pascale Desvignes, Jean-Christophe Ruffin.